Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissante. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Louise Brenner. Je suis naturopathe spécialisée dans l'accompagnement des troubles du comportement alimentaire ainsi qu'en nutrition végétale. Et dans ce podcast, depuis presque 3 ans maintenant, je vous parle de santé physique, mentale, de thérapie, de médecine alternative. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui à travers une nouvelle expérience que je viens de vivre, une nouvelle prise de conscience sur ma santé mentale. C'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé dans ce podcast, mais pas en ces termes-là, puisque j'ai mis enfin des mots concrets, un diagnostic si on peut dire, sur quelque chose dont je souffre depuis mes 17 ans. À la base aujourd'hui... Alors déjà, je vous enregistre cet épisode depuis Bali. Je vous l'avais pas dit la semaine dernière, mais ces deux derniers épisodes, du coup, ont été enregistrés depuis Bali, où je suis actuellement. C'est mon dernier jour aujourd'hui, d'ailleurs, et il pleut des cordes actuellement, donc si vous entendez un espèce de petit grésillement derrière, c'est simplement de la pluie et les voitures qui roulent dans les flaques. Du coup, aujourd'hui, à la base, je voulais vous parler d'un sujet... Je voulais appeler ça la légitimité à aller mal parce que c'est souvent un sujet qui revient chez mes clientes que j'ai en accompagnement TCA. Et c'est aussi quelque chose qui m'est souvent évoqué quand je discute sur Instagram avec des personnes qui ont un spectre de troubles du comportement alimentaire, qui considèrent que elles sont pas légitimes ni à aller mal, ni à se faire soigner parce que... c'est pas assez grave selon leur conception de ce qu'est la santé mentale. Et j'avais vraiment envie de discuter de ça avec vous parce que c'est complètement bullshit en fait. Que vous ayez une souffrance mineure par rapport à d'autres ou tout simplement que vous ayez envie de faire de la prévention, c'est toujours légitime d'entendre, reconnaître ce qui nous fait souffrir. Et on a le droit de s'occuper de soi, de se mettre en priorité, d'investir en soi, de passer du temps à faire ça et d'en parler, quelle que soit la gravité, entre guillemets, de ce qu'on ressent. Et ça fait un petit peu écho, du coup, au sujet qu'on va aborder aujourd'hui, donc c'est vraiment de manière ultra spontanée que je vais vous dévoiler, vous partager ce que je viens de vivre ces derniers jours. Donc comme vous le savez, je fais beaucoup de travail profond sur moi-même en ce moment. J'ai démarré une psychanalyse il y a quelques mois, dont je vous ai toujours pas fait un retour, mais ça ne saurait tarder. Et là, je vais être sur une bonne lancée pour parler de tout ça, de santé mentale et de ma santé mentale, donc... Si tout ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je voulais partager sur Instagram dimanche. Depuis plus d'une semaine maintenant, je traverse une crise de TOC. Donc les TOC, pour ceux qui ne savent pas, c'est troubles obsessionnels compulsifs. Quand on dit TOC, souvent... Ce qui est connu, c'est les personnes qui vont avoir des tocs de vérification, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir vérifier au moins 10 fois qu'elles ont fermé la lumière, qu'elles ont éteint le four, que le gaz est bien éteint, qu'elles n'ont pas oublié leur clé. Ça, c'est des tocs les plus connus, ceux aussi où les personnes ont besoin de se laver les mains 20 fois, ont peur des maladies, etc. Moi, c'est pas du tout ça. Je vous ai déjà parlé dans ce podcast, dans certains épisodes, de mon souci avec certaines parties du corps, notamment les clavicules, les os des hanches, que je ne supporte pas ni de regarder, ni qu'on me touche, ni de toucher les miennes, ni de voir des photos de ces parties du corps-là, et que j'avais parfois du coup des obsessions un petit peu sur ça, des images qui me viennent et du coup des sensations corporelles désagréables. Donc, par exemple, je ne supporte pas que des vêtements touchent trop mes clavicules, ce qui fait que je passe souvent mes journées avec mon t-shirt remonté sur mon menton. Voilà, bienvenue dans ma vie. Donc j'ai ça en fait depuis des années et j'avais pas réussi à mettre des mots dessus. Et en fait, depuis une semaine, j'ai un petit peu comme ces trucs-là que j'avais déjà depuis longtemps, mais sur d'autres choses, une nouvelle partie du corps, et vraiment de manière hyper intense. Donc depuis du coup bientôt 10 jours, ça a commencé un petit peu quand je suis arrivée à Bali. J'ai des pensées intrusives, enfin j'ai eu des pensées intrusives, obsédantes et horribles, d'ongles de pieds arrachés. Oui, trigger warning, si vous avez des tocs aussi, faites attention à ce que je vais dire, peut-être que ça peut vous trigger, je sais pas. En tout cas, voilà, si vous vous sentez anxieux, stressé et que vous avez pas envie d'entendre ce genre de choses, ben n'hésitez pas à arrêter l'écoute. Il y a un an, pile en fait, j'ai accompagné une amie à moi à l'hôpital parce qu'elle avait eu un accident, un petit accident de scooter qui lui avait en fait arraché son ongle de pied. Et je l'ai accompagnée à l'hôpital, elle parlait pas du tout, enfin elle parlait pas trop anglais, donc il a vraiment fallu non seulement que je l'accompagne, mais que je sois vraiment active dans la traduction de ce que les médecins lui disaient. Il fallait que je lui décrive un petit peu ce qui se passe, qu'elle devait faire, donc je devais avoir vraiment un peu le pif sur ça. Alors que de base, j'ai quand même une hypersensibilité aux blessures. Surtout, voilà, les ongles. En fait, tout ce qui est un petit peu, qui tourne un petit peu autour de la torture, ça me... Voilà, j'aime pas trop. Enfin, voilà, je pense comme tout le monde, mais... Donc, voilà. J'ai passé toute cette journée-là avec elle. C'était il y a un an, jour pour jour, en fait, au moment où je vous parle. Je le sais parce que c'est aussi le jour de mes un an avec mon mec, parce que après cette journée à l'hôpital, j'avais fait mon premier encart avec mon mec et c'est nos un an aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour ça que je m'en souviens et que c'est très étrange. Et du coup, bah, en revenant à Bali, donc un an plus tard, alors que ça m'avait pas plus traumatisée que ça, même si à la fin de la journée, j'étais en mode super crispée et tendue, genre un peu, waouh, j'avais besoin de sortir de ce contexte et d'oublier ce que j'avais vécu toute cette journée. Mais ça ne m'avait pas après poursuivi, on va dire. J'avais pas eu des images intrusives et obsessionnelles de ce truc-là. Et là, vraiment, du coup, bah, il y a 2 semaines, j'arrive à Bali, je me retrouve, en fait, dans les mêmes endroits, alors que j'avais déjà, enfin, j'ai continué à vivre après dans ces mêmes endroits. C'était pas la première fois que je revenais dans ces endroits-là après avoir vécu ça. Mais je sais pas, il y a quelque chose, une série de choses qui a déclenché le fait que, bah, en fait, progressivement, au bout de quelques jours, non-stop, dans ma tête, je voyais l'image d'un ongle arraché. En ayant aussi un petit peu, enfin, je sais pas, en développant, en fait, une anxiété autour de ça, c'est-à-dire que, bah, je me cache les orteils, je me replie les orteils toute la journée, pour qu'ils soient pas exposés. Ça me crispe en fait, ça me tend, j'y pense tout le temps, que ce soit en train de faire un massage, que ce soit en train de bosser, que ce soit sur mon scooter, tout le temps, ce qui fait que je peux, quand je ferme les yeux, en fait je vois ça et ça me tend encore plus et j'ai besoin de regarder quelque chose, de faire quelque chose, donc toute la semaine j'ai pas très bien dormi parce que je me couchais super tard en continuant à regarder des trucs sur YouTube jusqu'à ce que je m'endors littéralement devant pour ne pas... rester avec mes pensées en fait, et ça s'est empiré comme ça de plus en plus jusqu'à vraiment ressentir une crispation entière dans mon corps entier, et en plus de ça j'ai eu mes règles à ce moment-là, donc j'ai eu vraiment une journée vraiment dark où genre je me sentais trop mal dans mon corps, dans ma tête, dans mon estime de moi-même, je me sentais folle en fait, et... à tel point que bah du coup... En fait, je me suis rendu compte que ce truc-là avec les ongles, c'était encore un nouveau truc qui faisait écho à, du coup, ben, ce que j'ai depuis 17 ans, à savoir une espèce de phobie et anxiété sensorielle sur les clavicules, etc. Et du coup, dans un élan de détresse, je fais une note vocale à ChatGPT pour lui décrire tout ça à 23h. Et là, donc en fait, je lui dis, je vais vous dire exactement ce que je lui ai dit, parce que j'ai fait une capture d'écran de ce que je lui ai dit et de sa réponse. Je lui dis, est-ce que tu vois ce que c'est cette sensation désagréable d'imaginer comme des ongles sur un tableau? Parce qu'en fait, c'est ça qui décrit le mieux ma sensation et l'image. Si vous pensez ou que vous voyez ce truc d'ongle qu'on passe sur un tableau noir, voilà, un truc qui fait grincer les dents. Je lui dis comment ça pourrait s'appeler, en fait, cette pathologie mentale qui consiste à être obsédée et à penser à ce genre de choses toute la journée. Toute la journée, je pense à ces choses qui me font grincer des dents, qui me crispent, et j'imagine la douleur. Comment s'appelle cette pathologie? Et là, ChatGPT me répond. Ce que tu décris ressemble à un type de trouble obsessionnel compulsif, où les pensées intrusives et répétitives provoquent une forte anxiété ou inconfort. Dans le cas spécifique où tu es constamment préoccupé par des sensations désagréables comme des ongles sur un tableau, cela pourrait être classé comme un TOC sensoriel ou un trouble sensoriel spécifique. Les personnes atteintes de ce type de TOC sont souvent obsédées par certaines textures, sons ou sensations qui provoquent une réaction extrême, telle que le grincement de dents ou une sensation de malaise intense. Cette condition peut parfois être accompagnée d'une compulsion à éviter ces stimuli à tout prix. Il serait judicieux de consulter un professionnel de santé mentale, comme un psychologue ou un psychiatre, qui peut offrir un diagnostic précis et discuter des options de traitement. Les traitements peuvent inclure une thérapie comportementale cognitive qui est efficace pour gérer les TOC ou éventuellement une médication pour réduire l'intensité des pensées obsessionnelles. Oh mon Dieu. Et c'est comme ça que j'ai découvert que je souffrais d'un trouble psychiatrique depuis mes 17 ans, sans m'en rendre compte, alors que j'ai 30 ans. Yes! Après des années et des années à souffrir, à en parler à des psys, à des hypnothérapeutes, à plein de gens, à avoir fait plein de recherches sur Google, j'avais jamais mis ni trouvé une explication. Je n'avais jamais rien trouvé. Tous les thérapeutes à qui j'en ai parlé m'ont vraiment répondu « Aucune idée. Aucune idée. » Toutes les recherches que j'ai pu faire sur YouTube, sur Google, ça me sortait absolument rien. Je devais pas taper les bons mots-clés et ce truc de TOC, ça n'était jamais ressorti. J'avais jamais pensé que ça pouvait être des TOC. Mais c'est vraiment exactement ce que me décrit ChatGPT. Sur le fait qu'il y ait des sensations désagréables et que ce soit aussi provoqué par des textures. Oh mon Dieu. À une époque, quand j'étais en Mongolie, je me souviens, ce truc-là, c'est devenu obsessionnel sur la texture du béton. Vous voyez, un parpaing de béton, un truc rugueux. J'avais des pensées obsessionnelles tout le temps de ma peau contre un parpaing de béton. Mais vraiment, mais... Et franchement, c'est horrible parce que c'est tellement bizarre. C'est tellement bizarre et j'ai jamais trouvé quelqu'un, un témoignage, un article qui parlait de ça. Et là, du coup, en découvrant en fait que ça fait partie du spectre des TOC, j'ai commencé à faire des recherches, j'ai trouvé un site d'association qui s'appelle LAFTOC, où j'ai pu trouver un questionnaire, une espèce de grille d'évaluation pour s'auto-évaluer un petit peu la gravité de son trouble avant de pouvoir avoir un diagnostic chez un psychiatre. Et du coup, sur ce site, j'ai trouvé que du coup, je serais potentiellement entre le syndrome et le trouble. Le syndrome, c'est une version un petit peu plus mineure que le trouble. Obsessionnel, peu compulsif, parce que j'ai pas vraiment de compulsion. Les compulsions, en fait, c'est vraiment genre quand on a, par exemple, on a une obsession de la propreté et du coup, on va se laver les mains. Là, en fait, à part le fait de juste être crispé et protéger mon corps, j'ai pas de compulsion vraiment d'agissement. Mais je pense que ça rentre quand même un petit peu dans une forme de compulsion, le fait que par exemple, que je mette mon t-shirt au-dessus de mon menton pour pas que les vêtements touchent. C'est une forme de compulsion, mais je dirais que c'est des compulsions qui sont pas... Ça m'empêche pas de vivre, en fait. Et du coup, voilà, dans cette grille d'évaluation, j'aurais... Donc, un syndrome ou un trouble obsessionnel, peu compulsif, et sensoriel. Ce truc de sensoriel, je l'ai vraiment trouvé que via ChatGPT. J'ai pas trouvé d'article, j'ai pas trouvé de témoignage sur les différents comptes Instagram qui parlent de TOC que j'ai trouvé, par exemple Parlons TOC, La Folle Guêpe ou Pas Folle la Guêpe, un truc comme ça, un nom de compte Instagram que j'ai trouvé qui parle de ça. J'ai pas trouvé ce truc de trouble de TOC sensoriel. Donc ça, j'aimerais bien trouver un psy en TCC qui ait déjà entendu parler de ça. Si vous avez, surtout, j'ai fait une story Instagram hier pour commencer à en parler, surtout si vous vous sentez concerné, si vous avez déjà ressenti ça, si vous avez eu des TOC, vous avez été traité, n'hésitez pas à m'envoyer un message, vraiment, j'ai vraiment besoin de vider mon sac et de parler de ça à des gens qui me comprennent. Après, littéralement, depuis que j'ai 17 ans, personne qui me comprend. Donc voilà. Donc, les thérapies du coup envisagées, donc c'est les TCC, donc c'est une branche de psychothérapie, c'est la thérapie comportementale et cognitive. Donc je connais un petit peu, j'avais déjà fait une séance de ça, mais pour complètement autre chose. Enfin en tout cas avec une psy qui était, je sais pas si j'ai vraiment fait de la TCC, mais en tout cas c'était une séance avec une psy de TCC, mais je pense qu'on n'avait pas vraiment fait de TCC. Mais en gros c'est des séances de psy qui sont beaucoup plus courtes, qui vont vraiment être plus axées sur la modification de comportement. Je vous en parlerai plus du coup quand j'aurai refait des séances de TCC pour ça. Et la deuxième thérapie c'est des antidépresseurs, donc voilà, à haute dose. Ça permet vraiment de sortir un petit peu des crises pour travailler, je pense, le trouble à la source, quand on est, et c'est vraiment utile du coup quand c'est vraiment intense. Moi je compte pas prendre des antidépresseurs, j'en ai déjà pris quand j'étais ado d'ailleurs. J'ai commencé à avoir tout ça quand j'avais 17 ans, quand j'ai pris des antidépresseurs en fait. Le déclenchement de tout ça, c'est vraiment hyper hyper flou. Je pense que depuis toute petite, je me souviens que même quand j'étais petite, j'étais quand même assez sensible à tout ce qui est image de douleur. Je me rappelle que ma grand-mère avait un papier peint avec des broderies qui était assez rugueuse. Et je me souviens que je câblais un peu sur ça dans mon lit et que j'aimais pas la sensation du toucher de ça. Et bref, ça me provoquait un peu des sensations bizarres. Et c'est vraiment quand j'avais 17 ans, j'ai commencé en fait dans mon lit à ne pas supporter qu'on me touche les hanches, à avoir des images intrusives de hanches découpées à la scie, enfin... J'ai commencé à avoir des crises de ça. Et cette période-là, c'était vraiment un contexte assez anxiogène parce que à ce moment-là, j'avais eu ma première grosse rupture. J'étais avec un mec que j'aimais pas, vraiment par dépit, parce que j'avais peur d'être toute seule et de me flinguer en fait. Et j'ai commencé à prendre des antidépresseurs et j'ai aussi commencé à ce moment-là à prendre des drogues, de la weed et de la MDMA. Et je pense que ça a fait un melting pot qui a dérégulé mon système nerveux, qui a vraiment aggravé mon terrain, un petit peu de sensibilité à ces choses-là. Et après, en fait, au fur et à mesure des années, c'est passé des hanches aux clavicules, aux os généralement. Et il y a eu cette période aussi quand j'étais en Mongolie en 2022, je crois. Non, 2022, c'était l'année dernière, pas du tout. En 2016 ou 2017, je sais plus. Où j'avais, ouais, ce truc des textures aussi, avec le béton. Enfin bref. Et ça, c'était plus ou moins apaisé, dans le sens où j'ai toujours ce truc où on peut pas trop me toucher les hanches, où on peut pas me toucher les clavicules, où je fais attention à, je mets souvent mon collier, mon pull au-dessus de mon menton pour pas que ça touche. Mais j'ai plus eu de crise où genre, en fait, je pense qu'à ça toute la journée et j'ai besoin de me mettre en boule dans mon lit, etc. Parce que j'avais déjà eu des crises vraiment où ça m'obsédait par le passé, où je devais aller me coucher littéralement et me mettre dans un cocon pour arrêter de penser à ça. Mais c'était des crises parfois sur une heure, mais c'était jamais genre toute la journée, pendant une semaine non-stop. Comme ce que j'ai aujourd'hui, enfin cette semaine-là, avec cette histoire d'ongles. Ou pour le coup, là, ça vient d'un événement traumatique, j'ai la source et le fait d'avoir accompagné une copine qui a eu ça, alors que pour les clavicules et tout, j'ai vraiment aucun truc traumatique, à part, voilà, je vous avais fait un épisode avec la médium où on avait été voir dans mes vies antérieures pour parler de ce truc des clavicules où dans une vie antérieure, je me serais tranché la gorge et j'aurais été handicapée, je me serais cassé la hanche. Mais voilà, ça reste quand même un truc un petit peu perché de vie antérieure, de j'accorde pas trop de crédit non plus à ça, même si c'est une explication qui peut expliquer, mais en fait, voilà, c'est j'ai besoin maintenant d'être dans le réel, d'être dans la vie de maintenant, comment soigner ça, j'ai plus envie d'avoir des explications de d'où viennent les traumas, j'ai vraiment envie de trouver des techniques thérapeutiques qui m'aident en fait. J'en ai marre d'aller chercher des explications plus perchées les unes que les autres, qui sont peut-être vraies, mais voilà, là j'ai vraiment envie de me soigner de tout ça. Donc, comme vous le savez, du coup, je vous l'ai dit, j'ai un suivi de psychanalyse en ce moment. Je fais une psychanalyse, donc c'est un budget, c'est plusieurs fois par mois. Donc, je vais en parler à ma psychanalyste mercredi. Mais voilà, de ce que j'ai vu, les TOC et la psychanalyse, c'est pas vraiment, voilà, c'est pas la psychanalyse n'est pas une des thérapies reconnues pour ça, voire même c'est assez critiqué, j'ai l'impression. La théorie de Freud sur les TOC est très très critiquée dans le milieu du coup de la thérapie des TOC. Donc je vais peut-être faire des pauses dans ma psychanalyse pour faire un suivi en TCC pour parler de ça. Je sais pas, je vais voir. En revanche du coup, cette semaine, en voyant ma détresse, j'ai une copine qui m'a proposé de m'offrir une séance de PNL. Je sais pas si vous connaissez la PNL, c'est la programmation neuro-linguistique. C'est une technique thérapeutique psycho-émotionnelle. Et elle termine sa formation, elle a fait la formation vraiment complète, full complète de professionnalisation en PNL avec Paul Perronet. Paul Perronet, je sais pas. D'ailleurs, je vais l'inviter du coup dans mon podcast peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, si on a le temps. Elle m'a offert du coup une séance de PNL. Je vais vous raconter un petit peu. Donc en gros, j'avais pas beaucoup d'espoir parce que ça me faisait un petit peu penser à l'hypnose. Et j'avais déjà fait une séance d'hypnose quand j'étais en crise par rapport aux os des hanches. Et ça m'avait au contraire déclenché une énorme crise pendant 1 mois. Et ça m'avait pas du tout aidé à part, ce que je vous disais la semaine dernière aussi sur les peurs transmises. Que ma mère et ma grand-mère me disaient quand j'étais petite que c'était bien d'avoir peur parce que comme ça je serais prudente quand je faisais du cheval, que c'était bien que j'aie peur d'avoir mal. Donc voilà, ça m'avait donné aussi peut-être une forme d'explication d'où venait ce truc, mais ça m'avait pas du tout aidé à guérir, vraiment pas. Au contraire, ça m'avait tendu encore plus. Et bref, du coup, je vais à cette séance de PNL, j'en ai jamais fait, je sais vraiment à peine ce que c'est. Et du coup, en fait, elle m'a fait méditer, elle m'a fait respirer, elle a utilisé un protocole de visualisation de PNL. Et je pense qu'on en reparlera vraiment ensemble quand je serai avec elle pour utiliser les bons mots aussi. Mais en gros, elle a réussi à me faire visualiser et ressentir un moment dans ma vie où je me sentais vraiment sereine, apaisée, calme, insouciante. Elle m'a fait verbaliser ces mots-là en me demandant quel était le contraire, en fait, de mes sensations actuelles et comment je me sentirais une fois que je serais complètement guérie de ça. Et du coup, j'ai parlé de calme, d'insouciance, d'apaisement, de sérénité. Il y a vraiment cette notion d'insouciance, en fait, parce que vraiment le contraire de l'insouciance, c'est cette espèce de d'inquiétude, d'extravigilance et de d'anticipation de douleur en fait dans ce que je ressens. Donc insouciance. Et elle m'a proposé de réfléchir à un moment où je me sentais justement comme ça. J'ai mis du temps à trouver. J'ai finalement trouvé un moment, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, en août 2022, août 2022, quand je suis partie toute seule en vacances à Ahmed, où j'ai supprimé Instagram de mon téléphone. Et où, en fait, j'ai passé vraiment 5 jours dans un hôtel sur la plage avec un hamac, avec du trop beau snorkeling depuis la plage, un restaurant trop bon où, en fait, pendant 5 jours, je suis restée toute seule à juste dormir, être dans mon hamac, me nager avec les poissons, manger, faire du coloriage, sans téléphone, sans travail, sans rien. Et où là, vraiment, j'ai enfin ressenti cet apaisement et ce repos, vraiment cet état, elle appelle ça état ressource. Un état vraiment, vous voyez un petit peu, imaginez-vous dans un hamac, vous êtes au bord de l'endormissement, mais vous êtes encore un petit peu conscient, mais vraiment complètement reposé et à deux doigts de vous endormir, tellement bien, tellement apaisé, tellement. Donc je me suis souvenue de cet état-là et j'ai réussi à le ressentir profondément. Et elle a réussi du coup à me faire visualiser ce que je ressentais sur un écran de cinéma. Donc c'était horrible, à ce moment-là je pleurais beaucoup parce que j'imaginais vraiment genre un ongle arraché sur un écran de cinéma. Et elle m'a aidée à visualiser cette situation dans une situation moins grave, à transformer en fait cette image d'ongle en un pied de clown, puis un clown sur une plage, et à lier ça à mon état ressource. Donc en fait, je m'imaginais dans ce hamac, complètement apaisée et amusée, en train de voir ce clown qui faisait n'importe quoi sur la plage. Et je sais pas comment c'est possible, mais après la séance, du coup, j'avais toujours ces pensées d'ongles. Mais au lieu que ce soit vraiment un arrachage d'ongles douloureux que je vois, c'est genre comme un faux ongle qui se décolle, en fait. Donc j'ai toujours ces pensées-là, mais au lieu que ce soit un truc douloureux, c'est un ongle, un faux ongle, une capsule d'ongle qui se décolle en fait sans douleur. Et même quand je pense à un ongle arraché, et bah ça me provoque pas d'impact physique de douleur en fait. Donc bah génial en fait. Ça a été très très dur, ça a duré 1h30, j'ai énormément pleuré. Mais du coup bah ça a marché dans le sens où ça va beaucoup mieux en fait. Parce que j'ai toujours ces pensées obsédantes, mais elles sont moins douloureuses, moins impactantes, moins fréquentes. Et d'un coup, je me suis sentie mieux, en fait. Donc, merci beaucoup, Lily, de m'avoir offert cette séance. On va faire une séance de suivi aussi ensemble. Et je vais l'inviter dans mon podcast pour qu'elle vous présente son parcours, qui est passionnant aussi, qu'elle vous présente cette discipline, qu'elle vous présente ce qu'elle fait et comment ça peut vous aider, vous, dans vos symptômes. Et voilà, j'ai hâte de vous en parler plus. Merci beaucoup de m'avoir écouté, merci beaucoup pour tous vos messages que j'ai reçus depuis hier, de soutien, d'amour et de personnes qui me partagent aussi des choses similaires, et ça me fait énormément de bien. Et là j'ai vraiment les larmes aux yeux, parce que le plus dur dans tout ça en fait, c'est que depuis toutes ces années où je souffrais de ça, quand j'en ai parlé à mes amis à l'époque, j'ai reçu beaucoup de moqueries. Je me suis sentie tellement ridicule. J'avais des potes qui carrément, en fait, quand je leur disais ça, après venaient me toucher les clavicules, venaient me toucher les os, ou je me sentais tellement mal, en fait. Ça a vraiment participé aussi au fait que j'ai une mauvaise estime de moi, en fait. Et si aujourd'hui, il y a certaines de mes amies que j'aimais beaucoup, à qui je parle plus, c'est parce que au fond de moi, je leur ai pas pardonné ce comportement, alors que même ma meilleure amie, qui était la personne la plus aidante et qui avait le plus d'écoute pour moi, je me souviens de conversations où elle me disait « Mais c'est dans ta tête, mais arrête, c'est ridicule, calme-toi !» C'était tellement violent, en fait, de recevoir ces mots-là d'une personne qu'on aime. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est... D'un côté, je leur pardonne parce que c'est tellement pas répandu, en fait, cette connaissance sur la santé mentale. Quand on est en bonne santé mentale, on peut pas se rendre compte de ce que souffrent ces personnes qui ressentent des choses tellement bizarres et inexplicables. Et donc, je peux pas en vouloir à mes copines de l'époque qui avaient 19 ans, qui ont pas su quoi me dire d'autre que calme-toi, respire et arrête. C'est dans ta tête, t'es ridicule, tu nous fais chier avec tes trucs bizarres. Si vous avez été dans cette même situation, je vous envoie beaucoup d'amour. Et pour les personnes qui comprennent pas tout ça, je vous invite à essayer de jamais rabaisser ou faire comprendre à quelqu'un que ce qu'il ressent c'est n'importe quoi et que c'est pas légitime parce que ça fait vraiment souffrir. Et voilà, c'était mon petit gros meltdown. Et pour en revenir à l'épisode que je voulais faire aujourd'hui sur la légitimité à souffrir, ben voilà, c'est pas parce que vous souffrez de quelque chose qui vous empêche pas de vivre, que personne vous comprend et qu'en plus de ça vous avez une super vie comme moi. Putain, je suis naturopathe, je fais un métier passion, je gère mes horaires comme je veux, je travaille pas beaucoup non plus, je travaille pas 70 heures par semaine, ni même 35 heures. Je suis à Bali, j'ai tellement une vie de rêve. Mais pour autant, bah, ça m'empêche pas d'avoir une crise de TOC en étant à Bali et à péter un câble, en fait. Donc, c'est pas parce que vous avez une belle vie, que vous avez de la chance, que vos troubles ne vous empêchent pas de vivre, que vous méritez pas qu'on vous écoute et de chercher coûte que coûte à aller mieux parce que ça en vaut la peine et que il y a d'autres gens aussi qui sont dans votre cas. Et je pense que si on peut donner du crédit à la mission de vie, c'est vraiment ça, en fait. C'est chercher à guérir tout ça pour profiter de notre putain de vie, en fait, et qu'on arrête de transmettre aussi tout ça aux générations futures et voilà, qu'on se sente mieux. Je sais pas quoi dire d'autre, là, je suis un peu lessivée. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous serre fort fort dans mes bras. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode pour qu'on grandisse ensemble. Voilà, c'est le but de cet épisode qui s'appelle Croissante. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et à très vite. Bye.